Hervé Pierre, merci de nous recevoir à la Comédie Française, où vous jouez actuellement le rôle d'Anselme dans La Vare, mise en scène par Catherine Yégel. Donc on est un peu chez vous, votre second foyer. Comment avez-vous intégré la grande famille du français ?
Alors juste avant, je fais effectivement Anselme dans La Vare, une reprise de rôle. C'était Serge Bagdassarian qui jouait le rôle d'Anselme jusqu'à présent. Ça fait partie, par exemple, des règles de la Comédie Française. Serge est au Vieux Colombier pour jouer La Tête des Autres de Marcel Aimé, monté par Lille au bord. C'est moi qui reprends le rôle. Mais dans le même temps, on est en train de répéter déjà la reprise du Fil à la patte. La semaine prochaine, le fil à la patte commence. Mais je suis aussi en train de répéter Rituel pour une métamorphose de Saad Alaouanous, un auteur syrien, qui est mis en scène par Souleymane Abdallah, qui va se jouer à Marseille, dans le cadre de Marseille 2013, au mois de mai. Voilà, c'est en même temps ça qui est passionnant dans cette maison. Je pense que les qualités justement qu'il faut pour rentrer dans cette maison sans doute et faire partie de la troupe, c'est d'abord avoir le sens du collectif, savoir que d'une manière ou d'une autre, c'est pas pour rien que la devise est simul et singulis, qu'on est seul, on est pour soi, on y est pour soi, pour être à la rencontre de beaux rôles, de belles aventures personnelles, mais aussi pour être au service du simul, de cette chose qui est collective, qui ça demande de la générosité, ça demande de l'humilité, quelquefois beaucoup d'abnégation, parce qu'il peut y avoir des périodes extrêmement difficiles. Et je pense que beaucoup, moi en tout cas c'était mon cas, je me suis rendu compte, je m'étais dit tiens, au bout de 30 ans d'intermittence, je vais m'installer peut-être un petit peu à Paris, voir un peu plus les enfants. Ça a été le cas inverse, c'est-à-dire ouais. Quand je suis rentré, j'ai travaillé beaucoup plus qu'avant, sur des rythmes extrêmement difficiles, parce que comme c'est le seul théâtre en France qui pratique l'alternance, donc tous les jours on joue un spectacle et un spectacle différent de la veille. Donc c'est quand si, par exemple, vous êtes mobilisé sur 3 spectacles sur cette période-là, Le week-end n'existe pas puisqu'on joue tous les jours, lundi compris, et 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche. Donc à partir de là, en fait, les jours de repos sont de manière quasi aléatoire. On peut rien prévoir avec la famille. Ouais. C'est très compliqué à ce niveau-là.
C'est énorme.
Donc évidemment, c'est très prenant, et cet engagement qu'on perçoit de l'extérieur comme plutôt un engagement de fonctionnariat. Je dois dire que c'est une chose qui n'est pas de cet ordre-là, qui est plutôt un engagement incroyable au service des poètes, du répertoire et au service de la troupe, des camarades.
Alors, vous y avez un petit peu répondu, mais voilà, quelles sont, à votre avis, les qualités pour intégrer la Comédie Française
et rester, il y a ce rapport entre... les qualités impersonnelles, individuelles. Je pense que si l'engagement, c'est la prérogative de l'administrateur. L'administrateur, à un moment, a besoin d'engager quelqu'un. C'est ou une demande d'un metteur en scène parce qu'il ne trouve pas dans la troupe la personne adéquate, ou alors parce que la troupe a besoin de se renouveler, qu'il manque d'une tranche d'âge ou que... Mais l'administrateur ou l'administratrice va en même temps découvrir dans les spectacles qu'elle va voir des personnalités qui tout à coup lui semblent appropriées en tant que talent personnel, individuel, appropriées pour rentrer dans la troupe, faire partie de la troupe. Donc on sait quand on est engagé que nos qualités personnelles sont reconnues.
Oui.
Donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est en fait faire partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, du collectif. Avoir le sens et la générosité de la troupe, du fait qu'on est ensemble à partager une aventure complexe qui est de faire fonctionner cet établissement public toute l'année, sauf le mois d'août. Voilà. Et donc, bon an, mal an, on essaye ensemble de faire en sorte que si quelqu'un n'est pas disponible, il puisse être remplacé, qu'on a quelquefois des rôles plus petits, d'autres fois on va être le moteur d'un projet. Mais ça demande
C'est un esprit de corps, en fait.
Oui, un esprit de corps, une humilité, une générosité. Et il y en a certains qui, effectivement, n'ont pas ces qualités-là. Voilà, c'est ça aussi, c'est une réalité.
Et ceux qui n'ont pas ces qualités-là...
Voilà, c'est pas la peine de rester, quoi. D'accord. Enfin, moi, je crois que c'est pas... Il y a trop de souffrance au bout d'un moment.
Oui.
Donc, il faut pas... Faut pas
on leur demande de partir, ou alors ils s'en vont d'eux-mêmes.
Souvent, ils partent d'eux-mêmes.
D'accord.
Parce que évidemment, on se rend compte que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Quand, quand ça concerne ces qualités-là, les qualités liées au collectif.
D'accord. Hein,
après, si c'est des qualités qui sont d'ordre personnel, le comité, tous les ans, au mois de décembre, se réunit. Donc, il est constitué de 6 sociétaires, 3 sociétaires élus, 3 sociétaires nommés par l'administrateur. Ensuite, il y a l'administrateur. Ce comité considère au mois de décembre le cas de tout le monde.
D'accord.
Donc, ceux qui arrivent en fin de contrat, les sociétaires qui arrivent en fin de contrat, et puis tous les pensionnaires, puisqu'ils sont tous les ans, en fait, on parle de leur place dans la troupe. Est-ce que tout va bien?
Une sorte d'évaluation, quoi.
Voilà,
dans les entreprises.
Voilà, exactement. Ouais, exactement. Mais c'est très rare, en fait. Et c'est pour ça que, à tous ceux qui ont comme ça des réactions épidermiques sur la violence que ça peut représenter, mais je trouve que c'est pas très juste. Je trouve qu'il y a un fonctionnement finalement qui est extrêmement démocratique, qui fait qu'il y a peu d'entreprises finalement où les salariés sont jugés par leur pair. Mais ce comité, en même temps, il n'est pas élu à vie. Il est renouvelé tous les ans.
D'accord.
Donc, tous les ans, en fait, c'est un nouveau comité qui est élu. Dans ce comité, les personnes qui ont voté des départs, par exemple, l'année précédente, peuvent très bien se retrouver dans la charrette et partir l'année suivante. C'est-à-dire en fait, est tout à fait aléatoire et finalement entretient la possibilité que cette maison se renouvelle régulièrement, puisque les engagements, c'est l'administrateur. Mais les dégagements, c'est le comité. Donc, c'est la troupe. Donc, la société des acteurs prend dans le vivier des pensionnaires les personnes qui auront les personnalités adéquates pour faire partie de la société des acteurs. Ils le proposent.
Oui.
La personne n'est pas obligée d'accepter. Ensuite, ça passe au vote de l'Assemblée générale des sociétaires. Et quand tu rentres dans la société, à partir de ce moment-là, tu fais partie du cœur de troupe. C'est un engagement profond avec la troupe, avec son fonctionnement.
Ouais.
D'une certaine manière, tu fais partie de... Il y a deux patrons. Il y a l'administrateur qui est nommé directement par la tutelle. Et il y a la Société des acteurs français qui est la permanence, en fait. Depuis 1680... C'est ce cœur de troupe qui crée la permanence et les administrateurs passent, la troupe elle reste.
D'accord.
Donc là, on a parlé de la Comédie française, on a parlé du fonctionnement un petit peu, des qualités pour intégrer la Comédie française. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur vous, sur votre parcours. Comment justement vous avez commencé? A priori, vous avez commencé très tôt. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était des rencontres? Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos débuts en tant que comédien, en tant que jeune comédien.
Ben, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, en fait. La chance d'abord de naître sans doute au bon endroit, avec des parents très, très aimants et très passionnés par le mouvement associatif d'une manière générale. Je suis né dans le Haut-Doubs. C'est une région qui est entre au-dessus de Besançon, vers la frontière suisse, pas loin de Pontarlier. C'est une région un peu rude. Les hivers sont longs, rigoureux. Et c'est les régions où le mouvement associatif s'est développé très très fortement. Les fanfares, les chorales, les troupes de théâtre, tout ça a une très grande importance. Donc, mes parents, en fait, faisaient partie de la troupe théâtrale de mon village depuis très très longtemps, depuis leur jeunesse. Et donc, mon père, en fait, a pris le relais. Il s'est donc retrouvé à animer cette troupe pendant de longues années. D'abord, il était comédien, ensuite, il a mis en scène. Et finalement, j'ai assisté quand j'étais môme à des séances assez passionnantes, assez belles à voir, de voir des ouvriers rentrer de leur travail et puis pousser les meubles de la cuisine et puis répéter. Alors c'était un répertoire de théâtre de divertissement, c'était du théâtre de boulevard, mais y avait en fait un appétit, une joie à se retrouver. Ils montaient deux spectacles dans l'année, à l'automne et au printemps. Dans mon village, en plus, le curé était quelqu'un de très engagé dans le mouvement associatif et très amoureux du cinéma. Et il a poussé toute la communauté à construire en fait une salle. Mais une vraie salle de théâtre et de cinéma, avec un parterre, deux balcons, des loges sur les côtés, une fosse d'orchestre, des cintres, voilà, incroyable. Ouais. Dans ce petit village, c'était extraordinaire. Et donc, il y avait, en fait, une énergie, et c'était vraiment ce que je disais, beau de voir des gens pleins de cette passion. Alors, ils n'étaient pas passionnés par le métier d'acteur, ils étaient passionnés par le fait de se retrouver et de raconter des histoires ensemble, de monter sur une scène et de réjouir des spectateurs. Mais assis sous la table de la cuisine, à voir ces gens se rassembler, c'était vraiment émouvant et ça me marquait beaucoup. Et de voir aussi comment ils prenaient au sérieux cette chose-là, comment être quelqu'un d'autre, un personnage et tout ça, ils prenaient ça au sérieux. Puis un jour, mon père... ils avaient décidé de monter une pièce, un mélodrame qui s'appelait L'ange qu'on m'a donné. Et donc j'avais 8-9 ans. Et donc j'ai joué l'ange, un enfant abandonné, élevé par une nounou, et puis qui retrouve sa maman et qui veut pas la voir. Parce que, bon, bref. Et en fait, ça a été ma première expérience sur le plateau. J'avais fait des petits sketchs avec mon père, on allait chez les vieux. Chez les malades, je chantais des chansons devant le lit des malades et tout ça. Mais là, pour la première fois, j'ai pris conscience que c'était qu'une représentation théâtrale, le rituel de la représentation théâtrale. Et puis, il y avait une scène où j'étais assis sur un canapé, enfin couché sur un canapé recouvert par des coussins, en attendant le médecin. Je me cachais du médecin, de la visite du médecin. Et donc, le rideau s'ouvrait et... entre les coussins, j'arrivais en fait à voir le visage des spectateurs. Et en fait, de voir les visages des gens, j'ai revu ces visages-là plusieurs années plus tard, quand je travaillais avec Jean-Louis Hourdin, il nous avait montré le livre, ce livre qui est assez célèbre d'ailleurs, qui est un livre d'un photographe qui a photographié les spectateurs de Jean d'Asté quand il était en tournée dans les villages autour de Saint-Étienne. Des visages complètement éblouis. Des mamies tout en noir qui ont la bouche ouverte ou qui se tiennent la bouche tellement elles sont impressionnées par ce qu'elles voient, par ce qu'elles entendent. Et ben c'est ça que je voyais. Et je me suis dit, ça, moi qui étais en plus engagé dans mon éducation catholique, j'étais très engagé avec l'Église, j'étais sacristain, enfant de cœur, enfin bon, bref. Parce que j'avais besoin aussi de ce rituel, cette communauté de... Mmh. Là, j'ai vu une communauté qui, en fait, était totalement éblouie, émue, enthousiaste. Et je me suis dit, mais c'est celle-là dont j'ai envie, c'est de ça dont j'ai envie de faire partie. Et je veux produire cette joie sur les visages, comme je le voyais là, entre ces coussins. J'avais pas conscience de ça, évidemment, comme j'en parle maintenant. Mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Puis après, il y avait les odeurs, il y avait toutes les odeurs qu'il y avait autour de la représentation. L'odeur de la laque, l'odeur de la poussière, des décors. Il y avait le rituel aussi de l'attente du démarrage, des saluts, de tout ce que peut représenter une représentation théâtrale dans son rituel de rassemblement de gens. Ça, j'ai senti ce jour-là que en fait, j'étais chez moi et que j'en partirais plus. Après, il a fallu que je négocie avec mes parents. C'était plus compliqué. Il a fallu que je négocie pour vraiment faire ce métier comme j'en avais envie. Donc, eux auraient préféré que j'aie un métier voilà.
Et faire ça à côté, oui.
Voilà, bon. Donc après, quand j'ai découvert qu'il y avait une école nationale, qu'il y avait le conservatoire, évidemment, à Paris, mais il y avait une autre école à ce moment-là, nationale, qui était où on pouvait être boursier, c'était l'école du Théâtre National de Strasbourg. Donc je leur ai dit, écoutez, voilà, je passe le concours, je le réussis, je suis acteur, je le rate, je suis instituteur, je ne bouge pas, voilà. Mais je doutais pas une seconde que j'allais rater le concours. Hein. Donc voilà, j'ai passé le concours, je l'ai eu et je suis devenu acteur. Voilà, basta. Et c'est aussi con que ça. Après, évidemment, au lycée, j'ai rencontré un homme, mon prof d'histoire géo, Pierre-Louis, qui m'a en fait fait découvrir que le théâtre, c'était autre chose que le théâtre de divertissement aussi. Donc il m'a emmené voir Jean-Pierre Vincent qui avait mis en scène La Cagnotte de la Biche. Jacques Vingler à Besançon nous avait emmené, qui était le responsable jeunesse et sport, nous avait emmené voir 89-93 Théâtre du Soleil, Nouchkine. Ça a été un éblouissement total, extraordinaire. Je lui ai dit, mais alors c'est en plus, si ça, si on peut faire ça au théâtre, alors là c'est extraordinaire. Donc toutes ces découvertes m'ont amené à Strasbourg, où j'y ai vécu 3 ans, où j'ai rencontré des gens magnifiques. Et après, les choses se sont enchaînées, voilà, naturellement. Quoi. Voilà.
Ben justement, parlons de ces rencontres magnifiques, justement, les auteurs, les comédiens, les metteurs en scène, qui finalement vous ont le plus marqué.
En dehors des gens qui m'ont marqué, justement, dans cette période de pontissalienne, mortuassienne et pontissalienne, c'est-à-dire mes parents, Pierre-Louis et tout ça. Quand je suis arrivé à l'école du TNS, il y a une personne qui m'a beaucoup impressionné et qui a compté beaucoup pour moi, c'était le chargé de la pédagogie qui avait été nommé par Jean-Pierre Vincent à cette époque-là, mais que j'avais vu jouer en fait avant dans La Cagnotte de la Biche montée par Jean-Pierre Vincent. C'est un acteur qui s'appelait Claude Petitpierre, qui est décédé maintenant, qui faisait partie en fait de la grande troupe de la Comédie de l'Est avec Hubert Gignoux. Donc il y avait des grands acteurs comme André Pomara, Claude Petitpierre, Jean Schmitt, Paul Bruy, enfin bref, ils étaient toute une bande. Et c'était un homme qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a transmis une éthique sur le métier qui... Au fond, là, je vais sans doute m'occuper la saison prochaine d'un hommage à Coppo. C'est des gens qui étaient en fait profondément remplis de l'héritage de Coppo et le TNS, la Comédie de l'Est, c'est Michel Saint-Denis, c'est donc un héritier de Coppo, un ancien élève de Coppo. Il y avait dans la manière dont il nous parlait du métier, dans les projets qu'il pouvait avoir. Quand je relis les pensées de Coppo, je me rends compte qu'il était profondément marqué par cet héritage-là. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment ça. J'ai été nourri par la pensée de Coppo, au fond, sans le savoir, mais par la pensée de Coppo qui a irradié toute la décentralisation. Donc, c'était, pour moi, Jean-Pierre Vincent, ensuite, et les personnes qui étaient avec lui, Jean d'Autremet, avec qui j'ai commencé à travailler à l'école du TNS. Et après la rencontre avec Jean-Louis Hourdin, par exemple, qui a été très importante pour moi parce qu'il m'a ouvert aussi l'esprit sur l'idée de l'acteur citoyen, du fait qu'on est, c'est pas impunément qu'on fait ce métier, qu'on monte sur une scène. Et donc par lui, j'ai découvert aussi Jean-Paul Wenzel, Olivier Perrier, les Fédérés. J'ai fait les rencontres avec Sobel, avec Planchon, avec beaucoup de gens qui justement ont compté beaucoup dans l'histoire de la décentralisation et qui, je pense, étaient ma nourriture profonde. L'idée de troupe pour moi existe déjà à ce moment-là. Elle naît évidemment avec mes parents d'une certaine manière, mais elle est profondément nourrie par ces rencontres avec toutes ces personnes-là. Et l'idée que ce métier en fait se fait en troupe. Alors, je n'ai pas à ce moment-là finalement intégré une troupe vraiment, mais j'ai fait j'ai eu des relations de fidélité avec certains metteurs en scène comme Pitoiset ou comme Hourdin ou comme Jean-Paul Wenzel à Hérisson voilà. Et j'ai fait 30 ans d'intermittence. Avant qu'on me propose finalement de rentrer dans la troupe de la Comédie Française. Mais ces 30 ans d'intermittence, au fond, j'ai roulé ma bosse dans tout ce qui était la décentralisation en France. mais au fond, sur les traces de Molière, quoi, sur les, sur, finalement, Molière a fait le même trajet. Il a circulé dans le sud de la France avec sa charrette, installé à Pézenas, installé. Et puis finalement, au bout d'un moment, il a trouvé chez le roi une écoute attentive. Les choses ont pu s'installer malgré tout sur Paris. La troupe a été créée. Elle a rejoint la troupe des comédiens de Bourgogne, enfin les Italiens. Enfin voilà, bon, la Comédie française a été créée, mais finalement, au bout du compte. Oui, je sens que j'ai fait le même trajet, j'ai bourlingué, puis je suis arrivé là, la rencontre avec la troupe, je pense, pour moi, s'est faite sous de très bons auspices. Je pense que je suis rentré dans cette troupe à un moment où la troupe est curieuse, enthousiaste, et je retrouve pour moi, là, des camarades que j'aurais pu rencontrer dans l'intermittent sur des projets avec un metteur en scène ou un autre, voilà.
Et y a-t-il des personnages que vous rêvez d'interpréter ?
En fait, on m'a souvent posé la question, puis souvent je me suis posé moi-même la question. Pendant un moment, je disais, j'ai tout envie de jouer, en fait, j'ai tout envie de jouer. Donc, dès qu'on m'en propose un, je dis, oui, ça c'est super.
Je crois.
Oui, celui-là, il est formidable. Alors, c'est vrai qu'il y a des rencontres. J'aurais pu jouer, par exemple, Sganarel dans Don Juan. C'est vrai que c'est un personnage que je rêvais de jouer. J'ai failli jouer, par exemple, Hamlet. J'aurais aimé le jouer. Là, Hamlet va être monté la saison prochaine. Je vais jouer dedans, mais pas Hamlet. Mais c'est vrai que ça, c'est. Par contre, j'ai joué Peer Gynt. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse me proposer Peer Gynt. Voilà, j'avais vu le spectacle de Chéreau avec Gérard de Sarthe, voilà, ça m'avait complètement enthousiasmé, mais jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu jouer ça. Donc là, quand Eric me propose de le jouer, c'est une sidération, quoi. Mais en même temps, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans toute ma carrière, quoi. Ce rôle de Peer Gynt, c'est une des plus belles rencontres, oui. Alors que j'en ai fait de très très belles. Dans toute ma vie, avec Ourdin, j'ai rencontré Shakespeare, avec Bottom, avec Caliban, avec Pitoiset, j'ai fait des rencontres magnifiques. Oblomov, ça a été un spectacle vraiment superbe. L'Ourfaust, où je jouais Mephisto, ça a été une rencontre extraordinaire. Avec Laurent Lafargue, je jouais le géant de la montagne, Coltrone, et c'était formidable. J'ai eu la chance de jouer des personnages magnifiques, magnifiques. Et ici, Amalric, dans le partage de midi, c'est quand même formidable de rentrer dans cette maison avec ça. Mais la grande magie, ça a été super. Enfin bref, voilà. Fil à la patte, formidable. Donc, mais voilà, après, il y a des rencontres comme ça qui sont carrément exceptionnelles, quoi.
Alors, vous donnez l'impression d'une facilité dans le jeu, une fluidité. Comment préparez-vous vos rôles ?
Alors là, je ne saurais pas dire.
On vous colle, là.
Non, je ne saurais pas dire parce que je pensais comme un artisan qui a l'habitude de faire son métier. Et où on dit, mais comment vous faites la chaise ? Il serait bien... Il dit, je ne sais pas, moi. Bon, je commence à prendre du bois, sans doute, voilà. Bon, ben, je fais un peu la même chose. D'abord, je pense que ça commence au poète. C'est la première chose. Donc, c'est déjà un rapport au poème. Comment on le lit, comment ça fait son chemin. D'abord pour soi. Ensuite, il y a la rencontre avec le metteur en scène et les partenaires. C'est très important, par exemple, d'entendre la première lecture, ensuite de savoir de quel ordre est le projet, comment le metteur en scène parle de son projet. Puis après, ça devient du travail, quoi. Après, c'est du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le texte, c'est pas une masse à faire, c'est vraiment une horreur. Et après, il faut répéter, quoi. Ouais. Et puis donc, c'est du travail. Donc, ouais. Je pense comme tous les artistes, qui considèrent qu'on fait un métier, un travail, ben voilà, tu te lèves le matin et puis tu vas dans ton bureau, quoi. Voilà. Oui. Les répétitions, c'est de ça dont il s'agit. C'est, il faut aller au bureau, il faut bosser, il faut reprendre et reprendre et reprendre et reprendre. Mais moi, j'adore répéter. Hein. Je trouve que c'est une période extraordinaire de pouvoir tout essayer, tout tenter.
Oui,
ah, je trouve ça, c'est comme un chantier magnifique. Non, je trouve ça formidable. Je pourrais plus m'ennuyer en jouant le spectacle qu'en le répétant.
Ah, oui.
Non, répéter, je trouve ça magnifique. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie, c'est apprendre le texte, moi. En fait, je trouve ça ennuyeux. Mais à part ça, non, je trouve ça passionnant. Tout le temps, les répétitions, c'est excitant, c'est formidable. Puis après, il y a jouer. Donc, pour moi, en fait, jouer, démarrer de jouer, c'est d'abord de la souffrance, d'abord du désagrément. Parce que en fait le spectacle n'existe qu'au bout d'un certain nombre de représentations, et bien évidemment on rentre aussi dans l'aspect social. Au départ, quand on travaille, quand on répète, il n'y a pas de social là-dedans, il n'y a que du plaisir, il n'y a que comprendre une œuvre et faire en sorte qu'elle s'entende de la meilleure manière possible et de faire son chemin personnel à l'intérieur de ce projet. Donc, de trouver la justesse du geste, des intentions, etc. Mais quand on commence à jouer, inévitablement, on ne l'a fait pas pour soi, on l'a fait pour des gens. Et donc, ce geste-là, il est fondamental. C'est le spectateur qui achève le spectacle. Le spectateur fait le spectacle. Il le fabrique, le spectacle. Et ça, on l'oublie trop souvent, d'ailleurs, je trouve. Et donc on a besoin d'avoir au minimum une dizaine de représentations, mais moi je trouve qu'il faut souvent une vingtaine de représentations pour que le spectacle tout à coup existe tel qu'il doit exister. Le spectateur en fait travaille la matière avec nous et nous avec eux, et c'est dans la manière dont les spectateurs lisent le spectacle qu'il est achevé. Et donc il y a en même temps il y a quelque chose d'assez douloureux, en fait, de ce passage intra-utérin à cette naissance où tout à coup il faut affronter, ça brûle les poumons, il faut accepter l'oxygène tel qu'il est, il faut accepter le monde tel qu'il est. Donc le regard des gens avec la brutalité, quelquefois, et la violence qu'il peut y avoir là-dedans. Mais c'est inévitable, c'est nécessaire, il faut en passer par là. Et donc, il y a ce moment qui est difficile, je trouve, brutal. Et puis, au bout d'un moment, il y a un plaisir qui revient, parce que le plaisir est celui du partage. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est extrêmement agréable, de retrouver le public pour partager avec eux l'éblouissement du poète et du poème. Et après, au bout de 100 fois, là, on commence à se dire qu'on aimerait bien passer à autre chose. Et qu'il y a quand même d'autres poètes, d'autres pièces, d'autres. Voilà, on pourrait quand même faire autre chose. Voilà. Donc après, il y a des habitudes qui se prennent, et on se dit là, il faudrait peut-être quand même songer à se secouer un peu et à passer à autre chose, voilà. C'est... Mais d'abord, il y a du travail, il y a un poète, il y a du travail, il y a découvrir comment faire entendre ce poète et comment faire en sorte que les spectateurs éprouvent la même nécessité à l'entendre qu'on a eu soi-même en le lisant.
Justement, on va passer aux autres choses, c'est-à-dire quels sont vos projets pour la saison à venir,
Là déjà il faut finir celle-là. Alors celle-là déjà.
Il y a déjà des
oui parce que j'avais pris. Oui j'avais pris un congé là. On m'avait octroyé un petit congé, donc j'ai pu sortir et j'ai fabriqué un spectacle qui s'appelle Tu tiens sur tous les fronts autour d'un poète qui s'appelle Christophe Tarkos. Ça a été mis en scène par Roland Auzet et j'avais pour partenaire Pascal Duquesne. Mm-hmm. Qui a été une aventure absolument magnifique qu'on va reprendre l'année prochaine en tournée, qui tournera à partir de janvier 2014. Mais bon, avant d'arriver là, il faut d'abord, donc là maintenant, reprendre l'avare, c'est fait, reprendre le fil à la patte, ça va être fait la semaine prochaine. Mm-hmm. Répéter rituel pour une métamorphose qui va se créer à Marseille et qui reviendra ici en mai. Commencer les répétitions de Hamlet montées par Dan Chemet qui se jouera en début de saison prochaine. Reprendre Ragno dans Cyrano de Bergerac qui finira cette saison, donc le mois de juillet, on jouera Cyrano de Bergerac quasiment en continu et en répétant dans la journée Hamlet. Il y aura le mois d'août, on va pouvoir respirer. Et puis ensuite, on va répéter Hamlet, mais ensuite répéter la trilogie de la villégiature mise en scène par Alain Françon qui va être repris à Richelieu pendant 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, on crée Hamlet. Ensuite, je reprendrai encore le fil à la patte. Ça pour aller jusqu'aux fêtes de Noël. Et à ce moment-là, le début janvier, je repartirai pour jouer Tu tiens sur tous les fronts.
Beaucoup,
je tiens sur tous les fronts.
Tenez sur tous les fronts.
Ah, voilà. Oui, ça c'est vrai.
Voilà.
Qu'est-ce, beaucoup, qu'on, qu'est-ce qu'on peut vous espérer alors pour le futur, pour un futur proche ou lointain? Parce que là, a priori, on est au sommet. Vous êtes le 522e sociétaire. Vous avez été consacré meilleur comédien français pour la saison 2008-2009 par la critique. Vous avez été promu chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Alors,
non, pas grand-chose. En fait, que ça continue comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours autant de plaisir à faire ce métier, que j'ai eu du plaisir à le faire avec des gens aussi curieux, enthousiastes qui peut y avoir dans cette troupe en ce moment. Voilà, non. Après, la vie est faite de hasard. Et en fait, je trouve ça mille fois plus passionnant de ne pas savoir ce que demain sera fait. Parce que demain sera toujours plus passionnant que ce que je pourrais imaginer qu'il devrait être ou qu'il pourrait être. Donc non, c'est bien de ne pas savoir. Et je n'ai pas envie de me souhaiter quoi que ce soit. Non, c'est bien que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Quoi. C'est beaucoup mieux.
Vous souhaitez que ça arrive.
Oui, voilà, que les choses arrivent. Que les choses arrivent.
Bon, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Hervé-Pierre.
Ouais, je vous en prie.
Et puis, on va se quitter avec Billie Holiday.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? or whatever my man is, I'm his forevermore.